Dans le magazine de ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de retrouver Dr Ariella. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous avoir ce soir sur les ondes de Cannes en français. On entame le premier de nos épisodes du podcast que l'on a appelé « Quoi de neuf, Dr Ariella ?», comme vient de le dire le jingle. C'est un podcast qui va un petit peu nous expliquer tous ces réflexes dont on a besoin, toutes ces questions qu'on se pose au niveau médical. Avant de commencer, je rappelle que vous êtes urgentiste et directrice médicale du Magen David France. Donc ça a quand même son importance dans l'expertise et l'analyse que vous allez nous donner. On est ravis de vous avoir dans l'équipe maintenant de Cannes en français. Aujourd'hui, on va entamer donc cette série de podcasts avec l'hémorragie.
Voilà, c'est ça.
Alors, tout d'abord, est-ce que, en langage vulgarisé, l'hémorragie, c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire un saignement ?
Alors en fait, l'hémorragie, c'est une perte de sang prolongée dans le temps et qui ne s'arrête pas spontanément. Si on prend étymologiquement, au niveau de la racine, c'est un mot latin qui s'appelle hémorragia, qui vient lui-même du grec héma pour le sang et ragia qui veut dire jaillir, faire éruption. Et en médecine, une hémorragie, c'est donc un écoulement de sang qui ne s'arrête pas spontanément.
D'accord, donc c'est pas comme une vulgaire petite plaie qui va coaguler rapidement.
Non.
D'accord, donc c'est quelque chose qui potentiellement est très dangereux.
Exactement, c'est schématiquement, pour essayer de représenter, si on pose un mouchoir en tissu sur une plaie et que le mouchoir s'imbibe et on voit le sang couler encore, ça s'appelle une hémorragie.
Ah d'accord, ok, donc ça c'est déjà c'est un premier critère pour savoir si on parle d'un petit saignement ou d'une hémorragie.
Ok, exact.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a différents types d'hémorragie ?
Alors en fait, il existe deux types d'hémorragie. Il y a l'hémorragie interne et l'hémorragie externe.
Ah, ouais.
L'hémorragie interne, c'est ce qui est le plus difficile à détecter parce qu'on ne le voit pas. C'est comme, mais on a quand même des signes indirects comme des bleus, des douleurs au ventre, des mal à la tête, quelqu'un qui est très pâle. Et puis on a l'hémorragie externe où là par contre c'est visible, parce qu'il va y avoir justement le sang qui jaillit, qui fait éruption. Mmh. C'est ce qu'on voit, c'est l'écoulement de sang dont on parlait tout à l'heure et qui nous intéresse.
Donc quelque part, il vaut mieux avoir une hémorragie externe, parce que là on le voit, vous allez nous expliquer les gestes, mais on peut s'en occuper, même des gens qui ne sont pas forcément des médecins en tout cas, essayer de stopper l'hémorragie. Mais alors une hémorragie interne, on entend ça malheureusement dans certains cas de personnes qui ont été hospitalisées pour X raisons et qui tout d'un coup ont eu une hémorragie interne. C'est quelque chose d'assez... ça fait peur.
Ça fait peur, mais attention, une hémorragie, ça reste une hémorragie, c'est-à-dire qu'elle soit interne ou externe. Concrètement, ça peut amener à la mort dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui va être très pâle et qui a une hémorragie dont on va chercher à l'intérieur parce qu'on n'a pas de saignement extériorisé. Et finalement, on va trouver la cause rapidement et on pourra faire un geste rapidement. Et puis, on peut aussi avoir une hémorragie extériorisée, fulgurante, sur une blessure, parce qu'on va en parler, mais ce qui compte aussi dans l'analyse de la blessure, c'est la localisation. Il y a des localisations au niveau du corps qui fait que si on est blessé, la mort peut arriver très rapidement.
Voilà, ouais, j'imagine qu'on va parler de jambes, d'artères, etc. Mais vous parlez tout à l'heure des causes. Qu'est-ce qui cause une hémorragie ?
C'est un dysfonctionnement de l'appareil qui fait circuler le sang, c'est-à-dire l'appareil circulatoire.
C'est l'artère ou la veine ?
Exactement. C'est des tuyaux, et à un moment donné, quelle qu'en soit la cause, il y a un tuyau qui va se rompre, qui va entraîner une saillie de sang, et que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et faudra trouver la cause.
D'accord. Alors, Alors, je ne parle pas ici d'un paramédic du Magen David Adom, je ne parle pas d'un médecin chevronné, je ne parle pas d'un infirmier. Qu'est-ce que la personne lambda doit faire, peut faire, lorsqu'on est, dans un premier temps, lorsqu'on constate une hémorragie ?
Alors, j'attendais un peu cette question parce qu'on me pose souvent cette question. Et en fait, la réponse, elle est extrêmement claire. C'est-à-dire que l'urgence, avant tout geste de secours, quel que soit le secours, c'est de se protéger et de vérifier qu'on est en sécurité. La base des premiers secours, c'est deux points. C'est la protection, donc ça peut être la protection dans la vie quotidienne. Si y a un traumatisme qui se passe à l'intérieur de la maison, on prendra des exemples peut-être tout à l'heure, mais on fera attention à nos petits gestes de la vie quotidienne, mais à plus grande échelle, c'est tout ce que vous pouvez apprendre avec le picot d'Aoref et la protection civile qu'il peut y avoir autour. C'est très important, premièrement la protection, deuxièmement l'alerte. L'alerte, typiquement, MADA, on fait le 101 et... vous le savez, grâce aux premiers intervenants, ils sont sur place, ils arrivent sur place en moyenne en 4 minutes. Donc vraiment, s'il y a un message que j'aimerais que tout le monde entende, c'est avant de faire quoi que ce soit, premièrement, on réfléchit à est-ce que vous êtes en sécurité et est-ce que la situation fait que vous pouvez donner les premiers gestes.
Alors, je vais essayer de récapituler. Me retrouve, on va dire que je suis sur mon lieu de travail, donc quelque part dans un endroit qui est en sécurité, parce que je suis pas à l'air libre, je suis pas susceptible de rencontrer un terroriste ou de recevoir un missile sur la tête. Je vois une de mes collègues qui a une hémorragie, du coup externe, elle saigne. Et là, la première réaction que je vais devoir avoir, c'est la mettre et me mettre à l'abri, dans cet ordre-là, tout d'abord elle, ensuite moi ?
Ah non, c'est d'abord le secouriste. Ah. Vous allez pouvoir secourir un blessé si vous-même, vous êtes en sécurité. C'est d'abord vous en sécurité.
Donc c'est le coup du masque à oxygène dans l'avion, hein, c'est ça ?
Exactement, voilà, exactement. C'est dans un avion, on se met d'abord le masque et après on le met à ses enfants.
Donc je la mets à l'abri.
Exact.
Et là, je téléphone tout de suite au Magen David Adom. J'ai rien à faire avant ça ?
Ah, si, si. Pour l'hémorragie, on va en parler. Mais je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes dans la cuisine avec votre amie Rebecca et vous êtes en train de faire à manger. Et elle a son grand couteau de cuisine qu'elle affectionne tout particulièrement et elle se coupe le doigt. OK ? Première des choses à faire. C'est pour ça que je parle d'automatisme de protection. Mmh. Première des choses à faire, bah on retire le couteau. Il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas blessé par le couteau et qu'il n'y ait pas de suraccident où elle va se blesser à nouveau avec son grand couteau de cuisine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment d'abord la protection et après le geste.
D'accord.
Et concrètement, pour les gestes, tout dépend de la localisation et de la nature de la blessure. Mais le process, ça va être toujours le même. C'est ce qu'on appelle les 3 A. C'est premièrement, on appuie. Deuxièmement, on allonge le blessé. Et troisièmement, on alerte. Okay ? Pour ce qui concerne d'appuyer, il s'agit là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on va sauter sur votre amie Rebecca, pas du tout. Si Rebecca, elle est bien, elle est consciente et que, entre guillemets, elle n'a que son doigt qui est coupé, eh ben, elle va appuyer elle-même. Le blessé va lui-même appuyer. Il prend la paume de la main et va soi-même comprimer la plaie. Ça, c'est très important.
C'est un espèce de réflexe qu'on a ?
Oui, en fait, on a toujours envie d'agir, d'aider. Et même si c'est notre instinct, on a envie d'aller aider l'autre, attention. Faut que ça soit cadré, faut que ça soit structuré. Aller toucher du sang, c'est pas anodin non plus. Donc, si la blessée peut elle-même comprimer sa plaie, elle va comprimer sa plaie elle-même. Et c'est très important. Ce premier A va être très important parce que il faut bien comprendre que l'objectif de la compression, c'est d'appuyer là où ça saigne et de façon à ce que ça soit permanent et suffisant jusqu'à ce que les secours arrivent. D'accord ?
C'est un peu le principe du garrot, non ?
Ah non, pas du tout. Le garrot... Ah.
Alors on ne mélange pas tout, je m'excuse.
Non, mais pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un réflexe. C'est pour ça que c'est bien qu'on prenne le temps de discuter de l'hémorragie, parce qu'il y a des idées comme ça qu'on peut avoir en tête. Concrètement, il y a une blessure qui est faite sur une localisation, sur un lieu, sur un membre où la blessée peut comprimer elle-même, elle va comprimer sa plaie. Maintenant, si c'est une localisation où elle ne peut pas y arriver toute seule, par exemple, vous êtes en VTT et votre amie Rebecca tombe et elle se blesse, ou bien elle a plusieurs blessures qui font qu'elle-même ne peut pas comprimer sa plaie. Évidemment, là, à ce moment-là, après avoir, encore une fois, vérifié que vous êtes en sécurité, par exemple, si c'est un accident de moto, vous éteignez le contact de la moto. Il faut toujours penser à la protection. Donc là, on revient à l'accident de VTT. C'est vous qui allez comprimer la plaie. Et à ce moment-là, vous essayez quand même de protéger vos mains. Donc, vraiment, idéalement, c'est avec des gants, mais sinon, vous prenez du plastique ou quelque chose pour protéger vos mains, pour ne pas être en contact direct avec le sang. Et vous prenez un tissu, si possible, propre. Et là, vous appuyez au niveau de la plaie. Toujours de la même façon, c'est-à-dire il faut que ça recouvre entièrement la plaie et que la compression soit permanente et suffisante. Et ça, c'est le premier point, c'est le premier A qui est l'appui. Est-ce que tout vous paraît clair, Yael ?
Tout me paraît très clair. Moi, j'aurais pas pensé qu'on couvre entièrement la plaie, mais je suis ravie. Voilà, vous voyez, on a tous appris quelque chose. Moi aussi, hein, peu importe le nombre de fois où on pourra m'apprendre ces choses-là, il y a toujours quelque chose qu'on apprend en plus. Donc, OK, on appuie, c'est le premier A.
C'est le premier A. Après, on allonge la blessée. Pourquoi on allonge la blessée ? C'est pour une raison pour deux raisons. Premièrement, parce que il faut garder quand même la quantité de sang qu'on a dans le corps, parce qu'à partir du moment où il y a une hémorragie, c'est-à-dire qu'il y a une saillie de sang qui va vers l'extérieur, forcément, on a la quantité de sang qui diminue. Donc, premièrement, il faut garder quand même au maximum le sang, et si on est allongé, y aura moins de sang qui sort, premièrement. Deuxièmement, l'objectif aussi, pourquoi on veut à tout prix garder notre sang, c'est pour préserver ce qu'on appelle en médecine les organes nobles, c'est-à-dire le cœur, les poumons et le cerveau surtout. Et donc du coup, l'objectif, un, d'appuyer, donc d'arrêter le saignement, et deux, d'allonger, c'est quand bien même on a perdu du sang parce qu'il y a eu l'hémorragie, qu'on est en cours d'arrêter, au moins le cerveau, le cœur et les poumons peuvent continuer à fonctionner parce que le sang continue à circuler. Vous avez compris ?
D'accord, tout à fait, c'est très logique.
Ok, donc ça c'est le deuxième A, c'est allonger la victime. À partir du moment où on a allongé la victime, qu'on a bien comprimé, soit la victime, quand je dis victime, je suis désolée d'employer ce mot-là, c'est comme ça.
Oh, non, la patiente, la victime, oui bien sûr, la victime du drame.
On appuie, on allonge. En fait, c'est très rapide comme geste, c'est-à-dire que quand on est face à la situation, là, on le détaille. Mais en fait, dans une situation comme je vous ai décrite, par exemple, en VTT, votre amie, elle a un accident. Tout de suite, vous voyez s'il faut écarter ou pas le danger, à savoir le VTT. Vous voyez si oui ou non, elle est capable de comprimer sa plaie. Elle ne peut pas comprimer la plaie. Vous, concrètement, ça prend une demi-seconde. Vous voyez la situation, vous êtes en danger, pas en danger. Est-ce que deuxièmement, c'est moi qui appuie ou c'est elle qui va appuyer sur la plaie? Et à partir du moment où vous avez, on va dire, le saignement est en cours contenu, vous donnez l'alerte à ce moment-là. C'est le troisième A. Et à ce moment-là, vous êtes soit en train d'appuyer, soit votre amie le fait elle-même, et puis vous appelez Mada et vous dites, voilà, je suis en VTT, vous donnez évidemment les consignes très claires, parce que ça aussi, les gens sont un peu perdus dans la nature du message d'alerte. Mais généralement, il faut faire simple, il faut garder son calme, faut donner des informations bien précises. Je suis avec un adulte, il est conscient, il n'est pas conscient, il respire, il ne respire pas, il a une plaie. Et vous avez le numéro de téléphone. L'avantage avec Mada, c'est que vous pouvez être géolocalisé. Ils vous demandent si vous voulez être géolocalisé, et après ils peuvent vous guider même en visio. Donc vraiment, le message d'alerte est très important. Et surtout, j'ai envie de vous dire que faut pas oublier un élément essentiel quand vous appelez et que vous donnez l'alerte. c'est de ne pas raccrocher. Il ne faut surtout pas oublier de ne pas raccrocher et d'attendre vraiment la consigne de « bon, maintenant, soit il y a les premiers intervenants qui sont arrivés, soit ils vous disent « bon, bah, c'est bon, maintenant la situation est réglée, au revoir ». Donc ça, c'est vraiment les trois points qu'il faut retenir. C'est le premier à l'appui, le deuxième point d'être allongé et le troisième point qui est l'alerte. Mais imaginons, je me permets de poursuivre, imaginons que vous devez vous libérer pour aller donner l'alerte et que que votre amie, elle ne peut pas elle-même comprimer. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle, et je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mot, un pansement compressif. Le pansement compressif, c'est ce qui va faire le relais de votre main. Et donc, on prend un tissu, pareil, on recouvre la plaie et on fait un bandage avec un tissu que vous trouverez. Il faut quand même que ça soit assez...
Le plus stérile possible, ouais, le plus propre possible en tout cas.
Voilà,
ouais.
L'idée,
c'est pas non plus de commencer à lui faire une infection en plus de ça. Quoi.
Voilà, voilà. Faut vraiment être au maximum. On ne peut pas être en stérile quand on est en plein milieu d'un pioule et qu'il y a un accident qui arrive. Mais on essaye de faire au maximum. Et le maximum, c'est on prend un tissu qui est propre, on recouvre la plaie, on fait une bande. Et pareil que la main, il faut que la compression, elle soit suffisante et permanente. Et attention, et là, je vais faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, à ne pas arrêter la circulation sanguine. C'est-à-dire, en fait, à faire un garrot avec votre pansement. Quand on fait un garrot, on arrête la circulation du sang. Et le fait d'arrêter la circulation du sang, ça a des conséquences médicales. Donc ça doit vraiment être dans des cas extrêmes seulement qu'on fait des garrots.
D'accord, donc ça j'imagine qu'on en reparlera à un autre moment, notamment la prochaine fois quand on parlera des piqûres de serpent, enfin des morsures de serpent qui sont en train d'arriver à grands pas en Israël. Mais alors si on récapitule avec les quelques instants qui nous restent, la chose la plus importante à savoir, et ça j'imagine que c'est un schéma qui se reproduit au fur et à mesure de beaucoup de situations d'urgence, les 3A. L'appui, l'appui, allongé et l'alerte.
Exactement, tout en sachant, évidemment, hein, Yael, je me permets encore une fois, c'est la protection et après on suit le protocole. L'appui, on allonge et on alerte. On vérifie vraiment qu'on est bien en sécurité.
Docteur Ariella, je vous remercie beaucoup pour cette première leçon en direct et pour ce podcast qui commence. Longue vie à Quoi de Neuf, Docteur Ariella. Et on vous retrouve très prochainement sur les ondes de Cannes en français.
Au revoir, Yael.